Bonjour Tiffaine, très bon après-midi à vous.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une semaine photographie que nous vous proposons dans la Compagnie des œuvres avec trois premiers épisodes. Vous l'avez entendu, consacré à Henri Cartier-Bresson, sa biographie l'un des derniers dans la voix d'Agnès Cyr, puis le parcours de son œuvre Mardi grâce à Jean-Pierre Montier, et enfin une émission hier sur ses relations avec le journal Le Monde grâce à Michel Guérin, tandis qu'en seconde partie de cette même émission, je recevais Clara Bouvresse venue parler de l'agence Magnum qui fut cofondée par le photographe. À signaler qu'une autre émission sur Cartier-Bresson avec Michel Friseau, cette fois a été diffusée en décembre dernier. Elle est toujours disponible en réécoute et en podcast. Nous terminons donc cette semaine avec un numéro consacré au photographe Man Ray. Il aurait dû être diffusé le 9 janvier dernier, mais n'a pas pu l'être. Il viendra donc compléter nos deux semaines axées sur les années 20. Aujourd'hui, en seconde partie, nous parlerons du cinéma de Man Ray et en particulier de son film L'Étoile de mer. Ce sera avec Carole Aurouet qui enseigne le cinéma et l'audiovisuel à la Sorbonne et à l'université de Marne-la-Vallée. Mais tout d'abord, nous sommes en votre compagnie. Alain Sayac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur honoraire du cabinet de la photographie au Centre Pompidou, cabinet dont vous êtes le fondateur et que vous avez dirigé de 1981 à 2006. Vous avez été le commissaire de nombreuses expositions, dont deux concernant Man Ray. Man Ray que vous avez donc exposé une première fois en 1997 et que vous exposez aujourd'hui encore avec Man Ray et la mode, exposition qui a donc lieu en ce moment à Marseille. C'est même une double exposition, hein, puisqu'il y a deux sites à la fois, le musée Cantini et le château Borelli, c'est jusqu'au 8 mars. C'est deux expositions ou c'est une exposition partagée en deux?
Non, c'est deux expositions, mais ces deux expositions vont être réunies en une seule, qui sera présentée à partir du 4 avril au musée du Luxembourg à Paris. Et donc on en constituera une synthèse. À vrai dire, cette exposition avait été voulue par la ville de Marseille, par la conservatrice du musée Cantini. Et on avait au début pensé à la faire simplement dans le château Borelli. Dans le château Borelli, la scénographie est assez difficile. Finalement, on a opté pour Cantini. Mm-hmm. Et on a fait, elle a conçu en même temps une exposition sur la mode au temps de Man Ray. Ce qui n'est pas strictement la mode et Man Ray. Et on fait une synthèse en quelque sorte qui sera à Paris, la mode et Man Ray, et strictement autour de Man Ray, ce qui, je pense, est à la fois intéressant parce que c'est la première fois réellement qu'une exposition sur la mode et Man Ray sur Man Ray en tant que photographe de mode a lieu.
Pourquoi?
Pour une raison très simple, c'est que Man Ray, à partir du moment où il revient en France en 45, après avoir cessé volontairement d'être photographe de mode après son départ de la France en 41, ne souhaite pas être considéré comme un photographe professionnel. Ça ne l'intéresse pas. Il veut être un artiste. Il clame partout. Il n'est devenu photographe que par défaut. Il est devenu photographe parce que il fallait bien vivre et que sa peinture, il n'en vendait pas. Et donc, c'est à la suite d'échecs réitérés de ses expositions que finalement, il s'oriente vers la photographie. Donc d'abord, tout simplement les portraits, d'abord un travail tout à fait simple, c'est-à-dire de reproduire les œuvres de ses camarades dadaïstes puis surréalistes, et puis de faire quelques portraits. Et c'est tout à fait par hasard que, à la suite d'une rencontre avec Poiret, qui se passe plus ou moins bien, que tout d'un coup Poiret lui dit « mais pourquoi vous ne feriez pas de la photographie de mode ?»
Alors on va détailler un petit peu tout ça, Alain Sayag. Est-ce que c'est pour ça, finalement, que vous avez appelé le texte du catalogue de l'exposition, que vous l'avez intitulé « Man Ray, une courte carrière » Parce que finalement, autant il a une carrière d'artiste qui est évidemment très longue, il est artiste jusqu'à sa mort en 1976, et puis il commence très jeune, mais la courte carrière, c'est la carrière de photographe de mode.
C'est en fait la carrière de photographe professionnel. Il n'est pas seulement photographe de mode, il est photographe de publicité, il est vaguement photographe d'actualité, il travaille pour Vue, pour quelques numéros de Vue. Non, c'est un photographe professionnel au sens littéral du terme. Mais c'est effectivement une carrière qu'il fait vivre et qu'il fait vivre très, très largement. Il est, d'après les témoignages d'un quasiment le seul avec Picabia, le seul des surréalistes à avoir des moyens, à pouvoir vivre très largement de son métier, tout en étant un surréaliste pur et dur. Mais cette soumission, en quelque sorte, à des commandes l'importune beaucoup et il pratique très ouvertement le transfert. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'images qui sont des images publicitaires, par exemple, vont être incorporées dans le corpus de son œuvre. Il va déterminer assez vite, dès les années 30, un corpus qui est pour lui son œuvre photographique. Une centaine d'images, en gros. Et dans ces images, il y a évidemment des portraits, il y a des nus, mais il y a aussi des images qui viennent de la publicité, mais dont il va cacher très, très, très soigneusement l'origine.
Une centaine d'images, ça paraît très très peu, alors qu'on en a tellement en tête, on a l'impression de déjà pouvoir en citer un certain nombre. 100 images, c'est vraiment pas grand-chose.
Non, je pense que c'est assez... L'ensemble de l'œuvre est relativement limité. C'est une époque où la photographie se fait sur des plaques de verre, c'est lourd, c'est coûteux, et on n'en fait pas tant que ça. L'ensemble des négatifs de Man Ray conservés, c'est 12 000 négatifs. C'est évidemment beaucoup moins que Cartier-Bresson, où c'est plusieurs centaines de milliers. Mmh. Mais on ne parle pas de la même chose. Ouais. On est là encore dans une photographie qui est une photographie lourde, Et lourde
à fabriquer et qui se fait
lourde
en studio.
À fabriquer et lourde à transporter. Brassailles ne voulait pas, par exemple, transporter ses négatifs. Il avait toujours un assistant pour transporter la caisse de négatifs. Ouais. Parce qu'il trouvait ça trop lourd. Pour Man Ray, c'est pareil. Man Ray ne voulait pas travailler dans son laboratoire. Il avait toujours des assistants ou des assistantes pour faire ce travail.
Est-ce que ça signifie que dans l'exposition donc que vous présentez, on peut voir quasiment toutes les 100 photos en question?
Non, parce que quand je parle des 100 photos, c'est l'œuvre. De son travail de photographe professionnel, peu de photographies ont été incorporées à l'œuvre. Peut-être une demi-douzaine, en gros. Effectivement, ce sont des images qui sont des images iconiques, ce sont des images qui sont restées. Par exemple, les larmes, qui est une image que tout le monde, enfin, que beaucoup de gens connaissent.
Donc, ce sont ces fausses larmes, ces larmes de verre.
Ces larmes de verre qui sont posées sur la joue du modèle, c'est en fait une publicité pour une marque pour Cosmécil.
Pour du Rimmel.
Pour une marque de Rimmel, oui. Et la petite phrase qui l'accompagne est très, vous pouvez pleurer, aller au cinéma et pleurer, et ça ne se verra pas parce que le Cosmécil ne coule pas. Mmh. Donc les larmes sont transparentes. Mais cette image, il va l'incorporer d'une manière d'ailleurs différente, parce qu'il fait un cadrage différent. Le cadrage au début est l'image pour la publicité. Comprend les deux yeux, puis il va l'incorporer avec un seul œil. Bon, il va errer beaucoup.
Il y a une photo très célèbre qu'on appelait le dos blanc.
Oui, c'est une petite tour de force technique où j'ai supprimé toute l'anatomie dans ce dos et voulu faire quelque chose comme une estampe japonaise.
On dirait exactement une peinture, n'est-ce pas?
Oui, mais la peinture a un rapport avec la photo, puisque on prend la même liberté avec la photo qu'on prend avec la peinture.
Un torse strié que vous comparez à un portrait.
Oui, c'était un nu, un modèle qui était près d'une fenêtre, et ce sont des ombres du rideau traversé par le soleil qui a fait cette sculpture. Alors, si j'étais sculpture, j'aurais fait ça en sculpture, comme ça.
Voilà un sujet justement artistique que vous condamnez, je crois, parce qu'il a quelque chose d'artificiel. C'est une fausse larme.
Je ne l'ai pas condamné, je l'ai fait exprès. Parce que j'aime des choses artificielles aussi bien que les choses vraies.
Alors nous y voilà, hein, Man Ray aime l'artificiel tout autant que le vrai. C'est peut-être pour ça qu'il s'intéresse aussi à la photo de mode, Alain Sayac, parce que la mode, ça peut être considéré comme un lieu de l'artificiel. On a bien compris qu'il s'agissait de gagner sa vie. Enfin, il y a aussi quand même ce travail-là sur la photo en studio, la photo fabriquée.
Non, cet extrait est tout à fait révélateur hein, de la posture que Man Ray prend toujours. Il prend cette espèce de ton assez détaché. J'ai fait les choses comme ça, par hasard. Ça m'est venu comme ça. En fait, pas du tout. Je pense que c'est vraiment volontaire. En fait, c'est un excellent... Très vite, il devient un excellent technicien. Il utilise la photographie d'une manière particulièrement élaborée.
C'est pour ça qu'il est un professionnel, justement.
C'est un vrai professionnel. Un vrai professionnel d'un métier qui est un métier, disons, subalterne. Et donc, lui, artiste, considère qu'on n'a pas à parler de ça. Ce qui compte, c'est finalement le résultat. Et le résultat, il le masque tout le temps. Il le dissimule. Il ne veut pas du tout reconnaître qu'il a réellement travaillé. Que réellement, effectivement, quand on voit ses premières photos de mode, elles sont assez pitoyables. Mmh. C'est vraiment des photos qui correspondent au canon de l'époque, c'est-à-dire des photos en studio posées, pas très intéressantes. Et effectivement, quand on lui demande d'intervenir, c'est pour quelque part y mettre une griffe, qui est cette griffe d'artiste qui bouscule les traditions. Alors, c'est pas une question de réalité ou d'irréalité. Il veut absolument transformer cette réalité banale de la photographie en un objet artistique et s'éloigner le plus possible de cette réalité. Il s'en éloigne d'une manière très simple, par exemple. Il prend toujours ses photographies très éloignées du sujet. Il met son appareil, il utilise une focale courte, il met son appareil loin, de manière à ce que tout ce qui est le grain de la peau, tout ce qui est gênant dans l'image photographique, banal dans l'image photographique, ce que, par exemple, cultive la photographie d'avant-garde allemande à ce moment-là, soit gommé, et il veut une image qui ressemble beaucoup plus à une image picturale. Alors, on ne parle pas du picturalisme, parce qu'à l'époque, il est condamné par la modernité. Mais c'est finalement ça qu'il veut. Et il veut expressément redonner, il le dit d'ailleurs, finalement, ce qui m'intéresse, c'est la sculpture classique, c'est la sculpture grecque. Et quelque part, avec ma photographie, je l'évoque. Et c'est ça, sa position.
Mais est-ce que ça correspond au désir de ses commanditaires? Parce que quand on travaille dans le milieu de la mode, on travaille pour la publicité, on travaille pour faire connaître un certain nombre de créations. Est-ce que on peut être artiste dans ces conditions-là?
Je pense, tout à fait. Et en fait, il va travailler entre 33 et 39, quasiment comme salarié pour Harper Bazaar, donc pour la revue de mode américaine qui va prendre, en gros, à ce moment-là, presque la totalité du marché de la revue de mode. Et les responsables de Harper Bazaar sont très présents. On malheureusement plus la correspondance. On n'a pas la correspondance. Mm-hmm. Mais je pense qu'il n'arrête pas de le pousser dans ses retranchements pour inventer de nouvelles représentations. Ce qui les intéresse, ce n'est plus simplement de reproduire une robe, telle ou telle robe, que de façon à ce que cette robe puisse être copiée par une modiste de province, mais c'est en cela qu'il est moderne. C'est célébrer quelque part un style de vie.
Donc il s'inscrit aussi dans l'histoire de la presse de mode.
Il est parfaitement dans ce mouvement, de cette évolution. Il n'est pas le seul, je veux dire, Beaton, Horst, tous les grands photographes de ce moment-là participent de ce mouvement, participent de cette façon de voir la mode différemment et en quelque sorte, de la populariser, mais à travers un regard qui est un regard différent.
Alors Harper Bazaar aimait tellement les photographies de Man Ray qu'en 1938, ils vont lui proposer de venir travailler à New York exclusivement pour le magazine. Il ne va pas accepter.
Non, mais il rêve comme toujours. Il veut aller à Tahiti parce qu'il se dit que dans le fond...
C'est un peu Gauguin alors.
Oui. Et les petites jeunes femmes tahitiennes, ça l'intéresse beaucoup. Donc non, il rêve et il s'arrête à Los Angeles. Et à Los Angeles, il va être obligé de un peu, disons, très vulgaire. Il va ramer beaucoup. Hein.
Oui. Mais il fait des images quand même à Los Angeles.
Très peu. Et quelques images professionnelles, mais très peu. Et finalement, il renonce assez vite à la photographie pour revenir à ce qu'il passionne, c'est-à-dire le travail pictural.
Alors tout ça commence avec Paul Poiret. Et une rencontre qui se passe à la fois bien, parce que ça lui ouvre des portes, mais pas aussi bien qu'il n'aurait cru. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette rencontre, Alain Sayag?
Alors, Il la raconte lui-même dans ses mémoires. Il faut se méfier beaucoup de ses mémoires parce qu'elles sont beaucoup arrangées. Dans ce qu'on peut reconstituer de ce moment, Gabriel Buffet-Picabia l'envoie voir Poiret. Il a l'espoir de faire un portrait de Poiret qui fera ultérieurement et qui n'est pas très intéressant, à vrai dire, qui n'est pas un de ses meilleurs portraits. Et Poiret lui dit, mais prenez donc un modèle et allez faire des photographies dans l'atelier.
Un de mes mannequins, en fait, c'est ça qu'il lui propose.
Un de ses mannequins, une de ses robes. Ouais. Est-ce que c'est vrai? En fait, on voit très vite qu'il photographie Peggy Guggenheim dans une robe de Poiret. Il est possible aussi que Peggy lui ait demandé de se faire photographier par lui. Il est très possible que que l'intervention de Poiret n'ait pas été essentielle. Simplement, très vite, Poiret lui dit que s'il veut vivre, il faut qu'il vende ses images à des magazines.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Man Ray et la mode avec vous, Alain Sayag. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour innover à ce point-là, en photographie, lui qui est donc un grand technicien, mais aussi un grand innovateur?
Et un très bon exemple, c'est des images qui sont faites avec le bélinographe.
Alors, qu'est-ce que c'est que le bélinographe?
Le bélinographe, c'est une machine qui permettait à l'époque de transmettre à travers la TSF des images.
C'est un fax.
C'est l'ancêtre du fax, effectivement. C'est un fax, mais un fax est extrêmement lent et extrêmement médiocre quant à la qualité des images. Et tout d'un coup, il envoie de Paris à New York des images par bélinographie, et non seulement des images qui sont très incertaines, mais qui en plus qui déforment et qui sont déformées dans les pages de Harper Bazaar, mais ce qui correspond aussi à la maquette du journal, qui est une maquette très qui bouscule beaucoup les traditions, et Man Ray s'insère parfaitement dans ce processus. Ce qui compte là, c'est pas tant l'image elle-même que la manière dont elle a été produite et transmise.
Mmh. Il y a aussi les recadrages, la question évidemment de l'éclairage. C'est un grand éclairagiste aussi. Il sait très bien mettre en valeur ses
sujets. Non, c'est pas un grand éclairagiste parce que j'ai l'impression que ça l'ennuie et que ça le fatigue. Hein. C'est vraiment là, c'est trop compliqué.
C'est pas l'impression qu'on a en regardant les photos.
Oui, mais parce que il recadre beaucoup. Donc il utilise la lumière, mais je pense pas que c'est dans la mise en scène de l'objet lui-même, mais c'est ensuite sur le travail sur l'image. Il travaille beaucoup ces images au recadrage et au tirage. Mmh. Les indications de tirage sont en général extrêmement précises, d'autant plus que s'il tirait ses contacts de façon à voir à peu près ce que donnait l'image, il donne en général à ses assistants le soin de tirer, et donc il leur donne des instructions qui sont en général extrêmement strictes, écrites et dessinées.
Alors sur cette question du recadrage, vous parlez d'une volonté de déréalisation qui serait donc l'objet de ces recadrages. Qu'est-ce que ça signifie dans
Ça signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de retirer à la photographie tout ce qu'elle a, elle peut avoir de banal et de trivial. Donc tout ce qui marque une réalité qui est pas forcément glorieuse.
Alors vous parlez par exemple du dos blanc. Vous pouvez nous décrire cette photo connue de.
Alors dans le cas du dos, c'est parce que on le sait, parce qu'on peut, on en a la preuve physique. Hein. Dans le cas du dos blanc, c'est une photographie qui fait partie justement de cet ensemble des photographies qui va retenir comme une œuvre photographique. C'est un dos dont on voit à peine le bas de l'arrière de la tête et qui s'arrête aux fesses, qui est très blanc et qui, en quelque sorte, fait penser effectivement à une sculpture antique.
Man Ray a commencé par être un photographe. Et puis il a été, si vous voulez, un inspirateur. Et enfin, il a été aussi un créateur d'objets. Et vous savez que les objets surréalistes ont une existence. C'est quelque chose qui a compté. Eh bien, Man Ray à fabriquer des objets extraordinaires. Par exemple, je me souviens d'un objet particulièrement symptomatique, c'était un fer à repasser avec des piquants aussi nombreux que ceux d'un porc-épic. C'était un objet de Man Ray. Et puis un jour, il a pris une baguette de pain et il l'a peint en bleu. Et c'était un objet absolument étourdissant. On avait un espèce de vertige en voyant ce pain bleu.
Oui, il y avait une grande différence entre ça et des objets de Picabia.
Très grande différence. Je veux dire par là que vous comprenez que c'était des objets qui existaient. Picabia, c'était des traits sur une toile. Picabia est resté un peintre.
Mais les objets de Picabia, c'était plus des défis que des objets d'art. Aussi.
Ceux de Duchamp, c'était des défis. Vous comprenez, mettre une pissotière pour faire un objet, c'était une provocation. Tandis que chez Man Ray, il y avait au contraire une création, si vous voulez, d'un monde insolite. Car je crois que Man Ray, parmi tous les surréalistes, nous a apporté cette notion qui a fait fortune, qui est devenue très importante, la poésie de l'insolite.
Philippe Soupeau, dans une archive de 1964, vous voulez dire quelque chose sur cette archive, Alain Sayag ?
Oui, quand il s'agit du pain bleu, par exemple, ce n'est qu'une ressucée de ce que Dali avait fait pour la rue surréaliste. Hein. Donc, mais bon, ça, c'est Man Ray prend son bien où il le trouve et il n'hésite pas à copier ses petits camarades assez souvent.
Bon, c'est l'effet aussi du milieu. En quoi est-ce qu'il est
tout à fait
influencé par son milieu?
On s'échange les idées, c'est évident. Et Man Ray, par exemple, a été très fortement influencé par Duchamp. Man Ray n'existe pas sans Duchamp.
Alors, sur la question de l'insolite, qui était évoquée à la fin de cette archive, la poésie de l'insolite, est-ce qu'on ne peut pas la voir, par exemple, dans cet objet étrange, qu'on peut d'ailleurs voir dans l'exposition en ce moment à Marseille sur Man Ray et la mode, qui est cette brouette d'Oscar Dominguez, dans laquelle l'un des modèles a été photographié. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet objet, cette brouette capitonnée de rouge ?
C'est un bel objet, mais Man Ray, c'est une des postures aussi. C'est la première posture de Man Ray, c'est de faire des photographies artistiques en mettant dans son décor des objets d'art. Alors ça peut être une sculpture de Brancusi quand il photographie Peggy Guggenheim qui est posée à côté d'elle. Ça peut être un fond, il commande à Giacometti un fond entier de plâtre en plâtre, d'oiseaux en plâtre devant lequel il va photographier ses modèles. C'est aussi, il incorpore dans son œuvre. Ça, c'est la première étape, en quelque sorte.
Ça répond à une logique, enfin une volonté,
une logique, effectivement.
De mêler les arts.
Oui, et puis de montrer sa modernité. La modernité, c'est l'art vivant, et l'art vivant accompagne les modèles et les robes de couturiers. C'est assez logique. Mais très vite, ça va glisser, et effectivement, il va mettre en scène d'une manière beaucoup plus élaborée ces images, de façon à ce qu'elles soient elles-mêmes des objets d'art.
C'est un petit peu comme si au départ, on faisait venir l'art par l'extérieur, en mettant des objets d'autres artistes, et ensuite, on devient soi-même créateur d'art en photographie. Enfin, Man Ray devient créateur d'art en photographie, c'est ça que vous dites ?
C'est ça, et la photographie dans la brouette est tout à fait exemplaire, dans la mesure où non seulement il s'agit d'un objet un peu étrange, fabriqué par Oscar Dominguez.
Fabriqué pour la photo ?
Non. Probablement pas, mais qu'il utilise pour la photo, dans lequel il place un modèle avec une robe particulièrement luxueuse. Mais non seulement ça, mais en plus, il adopte un procédé photographique qui est un procédé moderne, c'est-à-dire le point de vue de l'oiseau. Oui. Il prend le modèle en contre-plongée, d'une manière assez brutale. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle, au lieu d'être écrasé, est finalement magnifié par cette position. Et donc, on a là toutes les étapes dans cette seule image de la production d'une photographie de mode telle que Man Ray va la concevoir.
Alors vous montrez dans l'exposition un certain nombre de photos assez étonnantes, comme celle de Jacqueline Godard en 1930 avec sa coiffure ébouriffée, on dirait une pop star des années 80.
Oui, mais quelque part, c'est aussi une forme de solarisation. C'est-à-dire qu'il utilise la lumière pour mettre en relief la coiffure un peu extravagante de...
On voit aussi dans le catalogue Catherine Deneuve, photographiée en 1968, avec ses boucles d'oreilles lampshade.
On peut pas dire que la photographie est extrêmement
non, mais dans le catalogue,
réussie. Hein.
C'est Catherine Deneuve qui nous fait parler.
Non, mais je parle de la photographie. La photographie est assez plate, finalement. Non, là, il s'agit d'une photographie très tardive et Man Ray fait... On a l'impression qu'on fait plus très attention.
C'est juste parce que c'est une jeune star.
C'est une jeune star et qu'elle arbore les boucles d'oreilles qu'il vient de concevoir et qui ne sont quand même qu'une décalque lointaine d'un objet qui est intéressant, qui est une forme de lampadaire, avec une feuille de papier qui se déroule et dont il fait faire une copie en or et sur 2 cm de hauteur. Bon, c'est un peu tous les artistes, Braque l'a fait, tous les artistes l'ont fait à la fin de leur vie, de décalquer en petit format et sous forme précieuse. César l'a aussi l'a fait, leurs objets artistiques. On peut pas dire que ce soit une révolution.
D'accord, donc Catherine Deneuve peut aller se coucher et se rhabiller. Ça va le lasser quand même, non, j'ai bien compris. Ça va le lasser quand même, donc, ce rapport avec peut-être le milieu de la mode, le fait de faire des photos en professionnel. Et donc, il va mettre fin, on l'a dit d'abord, à sa collaboration avec le Harper Bazaar. Et puis, à un moment donné, donc, il va complètement abandonner la photographie en disant « I hate photography, je déteste la photographie ». Est-ce que c'est vrai, ça, encore ?
Non, bien sûr. Je pense que la photographie l'a fait vivre et l'a fait vivre bien, encore une fois. Non, je pense qu'il ce qu'il est, c'est la soumission, en quelque sorte, à quelqu'un d'autre.
Alors, qu'est-ce qui l'avait attiré dans le monde de la mode, tout de même, à part le fait que ce soit en partie alimentaire? Vous dites, quant à vous, que c'est peut-être le sex appeal des modèles qui lui donnait aussi envie quand même de travailler. Il n'y a pas de modèle masculin, d'ailleurs.
Si, il y en a. Il y en a un ou deux, mais enfin, assez peu. Et en plus, c'est des modèles qui sont très ambigus quant à leur masculinité. Je voudrais pas être trop critique, mais c'est vrai que Breton disait de Man Ray qu'il avait plutôt une vocation de partouzeur. Donc, il le disait pas comme ça, mais c'est vraiment ce que ça voulait dire. Bon, c'était assez facile pour Breton d'être critique sur ce point-là de ce petit camarade, mais je pense que c'est une des qualités de son œuvre. Il met en valeur le corps de la femme. Il adore le corps féminin et il le met en valeur d'une manière particulièrement glorieuse. Mais tous les peintres et tous les sculpteurs l'ont fait.
Oui, parce qu'en même temps, les photos ne sont pas du tout sexualisées, au contraire même.
Non, certaines le sont tout à fait, mais elles ne sont pas diffusées. Il ne tenait pas à ce qu'elles soient diffusées à ce moment-là. Mais peu importe, il est vrai que la photographie de Man Ray est toujours très sexuellement chargée. Elle est extraordinairement séduisante, je veux dire. Toutes les femmes de l'époque ne rêvaient que de se faire photographier par Man Ray. Enfin, c'est une évidence. Elles étaient magnifiées par son objectif. Et c'est ça qu'il veut. Je pense qu'on ne peut en aucun cas le lui reprocher.
Et son œuvre, c'est une sorte d'érotique voilée, pour reprendre le titre d'une de ses photos de 1933.
Pour moi, c'est un érotisme qui n'est pas voilé du tout, mais qui est très ouvertement dévoilé.
Merci beaucoup Alain Sayag. Je renvoie nos auditeurs sur le catalogue de l'exposition Man Ray et la mode. L'exposition qui se tient donc en ce moment et jusqu'au 8 mars au musée Cantini et au château Borély à Marseille, et qui donc arrivera à Paris au musée du Luxembourg à partir de quand ?
Du 4 avril.
À partir du 4 avril. On va continuer de parler de Man Ray, en particulier de son film expérimental L'Étoile de mer, en seconde partie de cette émission. Mais d'abord, voici le moment de notre pas de côté, c'est la chronique du jeudi.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Un pas de côté qui nous est proposé aujourd'hui par Aliette Armel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, critique littéraire, habituée des jeudis de la compagnie. Et vous avez voulu nous parler de Man Ray aujourd'hui à travers sa compagne, Lee Miller. Et plus encore, à travers une fiction qui parle de leur relation.
Lorsque la jeune écrivaine américaine Whitney Sharer rencontre les photographies de Man Ray et de Lee Miller dans une exposition au Peabody Essex Museum au nord de Boston, c'est la force des images et le potentiel romanesque de l'existence de Lee Miller qui la frappe. Elle éprouve d'emblée la sensation d'un accord entre leurs sensibilités. Elle va pouvoir mettre en récit la vie de cette amoureuse passionnée, de cette photographe à la forte puissance créatrice, de cette correspondante de guerre qui a fait découvrir au monde l'horreur des camps de la mort. Lee Miller a en effet assisté à l'ouverture de Buchenwald et de Dachau et elle a envoyé à Vogue des clichés si terribles que le magazine lui a demandé de se porter garante de leur authenticité. Lee Miller se donne, s'expose dans l'épreuve de la guerre, comme devant ou derrière l'appareil photographique, et de cette expérience hors de normes, elle ressort épuisée, dépressive, alcoolique, ne parvenant plus à terminer le dîner qu'elle cuisine pour ses invités dans la ferme du Sussex où elle habite avec son mari Roland Penrose dans les années 1960. On est bien loin des clichés habituels sur les Miller.
Et c'est sur cette scène terrible de cette maîtresse de maison en pleine défaite que s'ouvre donc le roman publié par Whitney Sharer en 2019.
Et Whitney Sharer nous présente une femme détruite par ce qu'on appelle le stress post-traumatique, mais aussi une artiste obsédée par son désir de poursuivre à tout prix son œuvre. À la fin de la soirée, Lee finit par accepter la proposition d'Audrey Wissers, la rédactrice en chef de Vogue, d'écrire un texte sur ses années avec Man Ray. Pour Audrey Wissers, c'est clair, le sujet, c'est Man Ray. Justement pas, au contraire, ça a toujours été le problème, se dit Lee. Et elle s'autorise donc à écrire le vrai récit de leur histoire, pas celui que perpétuent les biographies de Man Ray. Dans ses biographies, par exemple, leur rencontre dans un bar alors qu'il partait pour Biarritz se raconte ainsi. Lee lui a demandé si elle pourrait devenir son élève. Il lui a répondu qu'il ne prenait pas d'élèves. Alors elle lui a dit qu'elle partait avec lui et le train n'avait pas encore atteint Biarritz, qu'ils étaient déjà amoureux. Dans le roman de Whitney Sharer, il ne s'agit pas de régler des comptes, d'attribuer à l'un ou à l'autre telle ou telle image devenue historique ou l'invention, elle aussi historique, de la solarisation. Non, il s'agit de s'inscrire dans un autre rythme du temps, le temps romanesque, qui rompt le fil biographique pour laisser toute sa place à la construction lente de la relation amoureuse et qui permet de retrouver l'intensité de l'émotion, celle qu'il est si difficile de restituer mais dont les photographies gardent une trace. C'est sur ces images, matière sensible, autant que sur les documents biographiques, que Whitney Sharer s'est appuyée pour écrire les épisodes de l'existence de Lee Miller, qu'elle architecture sans tenir compte de la chronologie. Elle sort les événements de leur sécheresse informative en les faisant surgir, brusque un flux de mémoire, au milieu de scènes où on ne les attendait pas et dont ils modifient le cours. C'est le cas par exemple du viol dont Lee a été victime à l'âge de 7 ans et qui la paralyse au milieu d'une nuit avec Man Ray. Placée au cœur du livre, la relation des deux artistes prend ainsi une toute autre épaisseur. Elle est présentée du point de vue de Lee, sans jamais tenter d'édulcorer son appétit de vivre et de créer, son besoin d'en demander toujours plus à l'homme qu'elle a choisi, sans occulter non plus sa déception profonde à chaque fois qu'elle constate le désintérêt de Man Ray pour son travail artistique à elle. Seule sa propre gloire lui importe. On sort ici du mythe de Pygmalion qui serait entré en rivalité artistique avec son élève et en conflit jaloux avec sa muse, une femme aussi libre que l'époque surréaliste y incitait.
Alors le titre même du roman rend hommage à la complémentarité de leur désir, Aliette.
Oui, il s'appelle « L'âge de la lumière ». Et c'est le titre d'un article écrit par Mann pour la revue 221, mais ce titre lui aurait été soufflé par Lee. Cet âge de la lumière est celui qu'ils ont vécu ensemble pendant 3 ans. Ils l'ont fait surgir du noir de la chambre de développement photographique et elle nous apparaît à travers les mots et les phrases de cette fiction. Sa part imaginaire se développe dans les creux laissés par l'histoire avec un grand H. Elle enrichit les perspectives ouvertes par les biographies qui, elles, ne dévient jamais des faits certifiés par le croisement des sources.
Voilà, l'âge de la lumière de Whitney Sharer a été traduit de l'anglais par Sophie Bastide-Foltz. On peut se procurer ce livre aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup, Aliette Armel. Moses
supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he noses his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
A Moses is a mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes. Hoop-de-doo-de-doo.
Bien la compagnie des œuvres que vous écoutez et vous êtes sur France Culture. Nous célébrons l'entrée dans les années 2020 en revenant sur des artistes des années 1920. Après l'écrivain Jacques Rigaud lundi, nous parlons depuis mardi du photographe et peintre Man Ray, photographe américain qui a aussi commis des films. C'est ce dont nous allons parler à présent avec Carole Auroué, qui enseigne le cinéma et l'audiovisuel à la Sorbonne et à l'université de Marne-la-Vallée, et qui a publié le livre « L'étoile de mer, poème » de Robert Desnos, tel que l'a vu Man Ray, aux éditions Grémez. C'était en 2018.
Desnos, quand il venait dans mon studio, s'endormait toujours dans un fauteuil. Un jour, il est venu me apporter un poème qu'il venait d'écrire, qui s'appelait « L'étoile de mer ». C'était plein des images, mais un poème, le contraire de tout poème surréaliste, rien se passait dans ce poème. Seulement, il avait des images assez hallucinantes. Je lui ai dit: Robert, je vais faire un film avec cette poème. C'est ça le scénario. Il est parti en voyage et 3 mois après, j'avais terminé un petit film qui s'appelait L'étoile de mer. C'était un film sans histoire. Il s'agissait d'un homme et une femme. La femme, une vendeuse de journaux, et son ami qui arrive. Mais il a toujours un bocal qui contient une étoile de mer qui figure comme symbole, je ne sais pas de quoi. Mais il suffit qu'il y ait l'air d'un symbole. Et pour filmer ces images, j'ai déformé un peu l'optique. J'ai mis des morceaux de verre cathédral devant l'objectif pour déformer les images à tel point que... Quand on voit le film, on croit qu'il n'est pas au point, qu'il y a quelque chose de réglé.
Il y a du flou artistique.
Ce n'est pas artistique, hein, c'est pire que ça. C'est pire que l'artistique.
Et bonjour Carole Auroué.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est pire que l'artistique, les films de Man Ray, vous croyez?
En tout cas, L'étoile de mer, peut-être que c'est pire que l'artistique.
Donc L'étoile de mer, c'est le titre de votre livre, L'étoile de mer, poème de Robert Desnos, tel que l'a vu Man Ray. C'est aussi le titre du film lui-même.
Oui, en effet, je suis très contente que vous le souligniez d'emblée, parce que ce n'est pas un film réalisé par Man Ray, écrit par Desnos, avec un scénario de Desnos. C'est véritablement un ovni artistique, c'est-à-dire un poème de Robert Desnos tel que l'a vu Man Ray. Poème qu'effectivement, Man Ray vient de le raconter, Desnos a lu lors d'une soirée, d'un dîner, avec Kiki de Montparnasse chez Man Ray. Et tout de suite, en fait, Man Ray a été impressionné, subjugué par ce poème, parce qu'en fait, de chaque vers, il voyait se détacher des images très nette, sans intrigue, effectivement, hein, comme il l'a dit, sans histoire très développée, mais des images qu'il a eu envie de porter à l'écran, de transmettre à l'écran.
Donc c'est un film un peu étrange, mais comme tous les films de Man Ray ne filme que le déconcertant, il ne nous propose que des choses déconcertantes dans ses films.
Oui, mais je crois que c'est ce qui l'intéresse au cinéma, c'est-à-dire que après la photographie, s'il vient... faire quelques balbutiements au cinéma, tourner quelques films, notamment 4, hein, entre 1923 et 1929.
Alors on peut les citer, hein.
Bien sûr, Le Retour à la Raison, qui est le premier, en 1923, alors qui est un film extrêmement court, hein, qui dure à peu près 2 minutes.
Ils sont tous très courts, quand même.
Ils sont tous très courts, mais après on
L'étoile
arrive
de mer,
à
c'est un quart d'heure.
Minutes, donc 2 minutes, c'est vraiment très très court pour ce premier coup d'essai dans lequel on trouve déjà un Kiki de Montparnasse. Il y a ensuite, en 1926, Emak Bakia, qui est une expression basque qui signifie « fichez-moi la paix ».
Alors ça, c'est pas mal, parce que ça permet finalement de résumer un petit peu la vie de Man Ray, sur quoi, la critique vis-à-vis de ses films.
Ou... Exactement, par rapport aux expérimentations et au cinéma qu'il envisage et qu'il a envie de réaliser.
C'est un manifeste, hein, et MacBook.
C'est un manifeste, exactement. Et là, c'est un film qui devient déjà beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que les balbutiements qu'il a eu avec le premier commence à s'élaborer davantage, à être vraiment fascinant, et il a envie, c'est évident, d'emmener le spectateur vers autre chose. En fait, tout ce qui représente la mimésis de l'image cinématographique ne l'intéresse absolument pas, hein. De toute façon, il le dit, je n'ai absolument pas envie d'aller au cinéma pour voir ce que je vois tous les jours et pour le voir avec les yeux que j'ai et la manière que j'ai de le voir tous les jours. Donc je veux proposer autre chose pour déconcerter, perturber le spectateur. Et il y a notamment cette image que je trouve absolument fabuleuse et qui a marqué les esprits, des yeux de Kiki de Montparnasse qui sont fermés, et sur les paupières de Kiki de Montparnasse sont dessinés des yeux ouverts, et des yeux qui restent de fait constamment ouverts et qui nous proposent une autre vision du monde.
Donc de la même manière qu'il fait avec la photographie de mode de l'art à part entière, il fait avec le procédé cinématographique de l'art à part entière.
Tout à fait.
Il ne fait pas du cinéma, alors il fait ce qu'on appellerait aujourd'hui, il est un vidéaste, c'est ça qu'on dirait aujourd'hui.
Je ne sais pas, c'est difficile de coller des étiquettes, je ne sais pas si Man Ray les aurait souhaité, et des snous non plus d'ailleurs, mais en tout cas il essaie de proposer autre chose, un cinéma qui va être du côté de l'émotionnel, du côté d'un côté extrêmement poétique au sens étymologique, hein, de poète, parce que le poète c'est celui qui essaie, qui est dans l'action, qui est dans la création, et qui essaie d'innover, comme Apollinaire d'ailleurs qualifie le poète. Hein. Le poète, c'est celui qui est aventureux et qui essaie de proposer autre chose. Donc c'est véritablement ce qu'il va faire avec le cinéma, avec une pratique du transfert dont Alaa Sayag a parlé tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des glissements, peinture, photographie, cinéma, et des techniques qu'il a pu expérimenter avec la photographie, comme la rayographie, il va l'expérimenter aussi avec le cinéma. Donc c'est un explorateur, c'est quelqu'un qui essaie d'exploser les frontières, les limites, constamment, et avec le cinéma particulièrement, puisqu'avec le cinéma, il a en plus ce mouvement qu'il n'a pas avec la photographie.
Donc L'Étoile de mer, 1928,
tout à fait,
ça donne un film qui pourrait très bien dater des années 40, même pourquoi pas des années 50, enfin il y a une espèce de projection dans le temps assez incroyable. Il est l'un des premiers finalement à proposer ce genre de cinéma.
Non, il n'est pas l'un des premiers, mais effectivement, hein, il y a cette en fait, cette dislocation du temps, cette dislocation de l'espace, le fait de vouloir projeter ces films dans un espace-temps complètement inconnu, inexistant, qui relève peut-être davantage du rêve et de l'imaginaire, évidemment, que de la réalité. Et il essaie de le faire avec tous les moyens qui sont mis à sa disposition dans un film. C'est-à-dire qu'il y a aussi un élément extrêmement intéressant dans L'Étoile de mer à ce niveau-là, c'est les cartons. Des cartons dont il fait des images. En fait, à partir du moment où le texte est inséré dans l'écran, il devient une image. Et de fait, il travaille ces cartons comme des images, en réfléchissant sur la disposition des mots, des phrases qui sont parfois disposées comme des verbes, en réfléchissant aussi sur la taille des lettres, en réfléchissant aussi sur des cartons qui sont extrêmement variés. Et je pense qu'en ce sens, il y a aussi de la part de Man Ray un clin d'œil à Mallarmé. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard, et qui est considéré, hein, en 1897, quand il est publié, comme un des premiers poèmes typographiques. Et il y a effectivement, voilà, aussi cette recherche à la fois sur la forme de ces cartons et de l'image qui brouille tous les repères, et puis aussi sur ce qui est dit, hein, évidemment, dans ces cartons, parce que ce ne sont jamais...
Qu'est-ce qui est dit alors?
Alors, ce ne sont jamais des cartons explicatifs qui vont être redondants par rapport à l'image, ou superlatifs par rapport à l'image. Ce sont toujours des cartons qui sont poétiques, dans l'émotion et perturbateurs. On va voir apparaître, par exemple, dans les plus connus, à un moment, les dents des femmes sont des objets si charmants, alors qu'on a le visage radieux de Kiki. Ou alors, il faut battre les morts quand ils sont froids.
Ouais.
Donc, évidemment, pas du tout quelque chose d'attendu, et il vient nous proposer une vision incongrue et différente.
Donc, il filme en poète, il est poète au cinéma, au sens où Apollinaire dit que le poète, c'est celui qui découvre de nouvelles joies, fût-elle pénible difficile à supporter. Vous trouvez que ça se marie bien, ça décrit bien le film L'Étoile de mer, ça c'est nouvelle joie, mais pénible à supporter.
Oui, peut-être L'Étoile de mer et peut-être aussi toute la relation de Man Ray avec le cinéma, parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, un accueil qui est quand même très mitigé, voire désastreux, un moyen d'expression qui ne lui rapporte là pour le coup aucun argent. Il y a aussi beaucoup de tentatives avortées du côté de Man Ray, donc peut-être aussi une insatisfaction à ce niveau-là, de manière très pragmatique, très concrète.
Ouais. Mais le film en lui-même, est-ce que vous avez l'impression qu'il est pénible à supporter dans sa poésie? Est-ce que il crée aussi un malaise?
Il déstabilise. Après, pénible à supporter, je ne trouve pas. On a peut-être envie d'appréhender le monde et la vie différemment, mais effectivement, il faut aussi que le spectateur soit un peu poète et aventureux.
Et chaque fois, je dois dire, je suis très ému en voyant le film, pas à cause des qualités qu'il peut contenir, mais à cause des souvenirs qu'il me rappelle. Basé sur un poème de Robert Desnos, qui m'a donné la première envie de faire un film, j'avais d'abord refusé. Quand on m'avait proposé de faire un film, j'ai dit, mais je m'intéresse seulement à des valeurs permanentes. Je vais rester dans mon petit coin de studio en faisant ma peinture, une photographie de temps en temps. Et ce sont des choses qui durent, qui restent accrochées au mur. On peut le regarder ou pas regarder. Mais ce sont des choses permanentes. Le film, il faut changer tout le temps. Il faut se déplacer, il faut être nombreuses pour le voir. C'est trop compliqué pour moi. Mais un soir, quand j'étais avec Robert Desnos, il devrait partir pour un voyage, et il m'a lu son dernier poème. C'était rien que des images.
Je vous vois prendre des notes, Carole Hourouet, sur cette archive de Man Ray.
On a parlé de la distance à prendre tout à l'heure avec les propos de Man Ray, et puis aussi parfois de posture, cette soi-disant non-envie de faire un film et une occasion qui finalement a créé L'Étoile de mer. Certes, peut-être, mais en tout cas la relation de Man Ray au cinéma, elle est quand même là et elle est quand même forte. On en a cité trois films jusqu'à présent. On peut citer le dernier en 1929, ouais. Les Mystères du Château du Dé. Mais au-delà de ces quatre films réalisés, il y a quand même aussi, dès 1923, donc quand même 5 ans avant L'Étoile de mer, cette volonté de filmer, de capter son entourage et ses lieux de vie, parce qu'en 1985 ont été retrouvés une vingtaine de petits films, alors certes pas mis en scène, des films plutôt de famille en quelque sorte, et tournés à la fois dans ses ateliers, dans ses lieux de vie, par exemple l'atelier du Val-de-Grâce ou encore la rue Campagne Première où L'Étoile de mer est tournée, L'Œil de Bœuf est celui de la rue Campagne Première, du 31 bis à la rue Campagne Première. Donc c'est des petits films qu'il va réaliser entre 1923 et 1940, donc c'est quand même quelque chose qu'il porte, qui est en lui et qui est récurrent. On a parlé des quatre films réalisés, il y a des projets avortés, il y en a notamment un avec Jacques Prévert, ils sont allés tourner dans des endroits un peu interlopes, filmer des balles, filmer des prostituées, etc. Et puis faute de commanditaires et faute d'argent, le projet a avorté.
Donc on n'a plus rien de ce
projet-là. On n'a plus rien à ma connaissance de ces images-là, donc il y a un certain nombre aussi de projets avortés. Et puis cet intérêt, il revêt aussi d'autres formes parce que Man Ray va par exemple disputer une partie d'échecs avec Marcel Duchamp dans Entracte de René Clair en 1924.
Ils aimaient beaucoup les échecs, tous les deux.
C'est vrai, mais il va aussi participer par exemple avec Marc Allégret à Anémique Cinéma de Marcel Duchamp. Il va, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais participer aussi à Souvenirs de Paris des frères Prévert, de Jacques et Pierre Prévert en 1928. Donc voilà, on a quand même une relation très dense avec le cinéma qui va être très vite déceptive, c'est évident, parce que le côté artistique, art, artisan du cinéma va se perdre, il va devenir évidemment une industrie, et là, Man Ray va perdre à la fois sa liberté et le plaisir qu'il peut éprouver, et pour aller assez vite, il va s'éloigner du cinéma, et cette symbiose, cette envie, ce plaisir qu'il a eu avec Desnos, c'est quelque chose qui ne va pas forcément pouvoir se reproduire, mais il y a une vraie envie, un vrai intérêt qui s'inscrit aussi dans la mouvance de ses compagnons de route, hein, des dadaïstes et des surréalistes qui s'intéressent et qui sont fascinés par ce nouveau moyen d'expression qu'ils ont découvert très jeunes, souvent adolescents, avec des chocs cinématographiques de jeunesse. Je pense à Fantomas et au Vampire avec Musidora de Louis Feuillade, parce qu'il y a dans le film L'Étoile de mer justement un clin d'œil avec un masque et des yeux à Fantomas et éventuellement les vampires aussi.
Il y a une fascination d'ailleurs pour les premiers temps du cinéma chez
ces gens-là. Pour les premiers temps du cinéma, d'où cette fascination aussi pour le cinéma muet. On ne veut pas d'un cinéma qui soit à la botte de la littérature et du théâtre, qui soit parlant, qui soit narratif. Ouais. On veut autre chose, ce côté vraiment cinéma des premiers temps. Et d'ailleurs, même Man Ray, dans sa terminologie, emploie souvent des termes qui correspondent au cinéma du premier temps. Il dit par exemple qu'il ne veut pas voir, je vous l'ai dit tout à l'heure, des films qui représentent ce qu'il voit tous les jours, et qu'il ne veut pas voir ce qu'il appelle des films trous de serrure. Alors, en l'occurrence, trous de serrure dans le cinéma muet, c'est plutôt les films un petit peu polissons qu'on pouvait voir par le trou de serrure d'une porte, donc l'expression ne convient pas, mais le fait qu'il l'utilise aussi est quelque chose d'assez intéressant. Et comme tous ses amis surréalistes, il s'est opposé au cinéma parlant.
Alors, on va faire cet exercice un peu difficile à la radio, qui est d'essayer de donner aux auditeurs un peu l'idée de ce que c'est que ce film.
Surtout pour
L'Étoile de mer, surtout pour un film muet, puis un film quand même aussi conceptuel. Bon, décrivons un petit peu ce scénario-poème, puis je vous laisse intervenir, Carole Horouet, dès que vous le souhaitez, pour commenter ces images mentales. Alors, ça commence dans la rue, c'est une femme qui vend des journaux, et sur un étal à côté d'elle, il y a une pile de journaux qui est retenue par un bocal de verre contenant donc cette fameuse étoile de mer.
La fameuse étoile de mer. Ce qu'on n'a pas précisé peut-être jusqu'ici, c'est que l'étoile de mer, en fait, fait référence à une femme. C'est-à-dire que quand Robert Desnos compose ce poème, il le compose pour une femme dont il est éperdument amoureux, mais c'est une relation extrêmement difficile, déceptive, parce que non réciproque et platonique. C'est son amour pour la chanteuse et l'interprète belge Yvonne Georges. Et en fait, il ne communie en quelque sorte avec Yvonne Georges qu'en fumant de l'opium avec elle. Et il la surnomme l'étoile. Elle est surnommée l'étoile, elle est surnommée la mystérieuse. Donc l'étoile de mer, ce poème, il est en hommage à Yvonne Georges. Et l'étoile, en fait, représente Yvonne. Donc ce bocal avec cette étoile, c'est un peu la symbolique de cet amour impossible et perdu. Alors certains ont vu aussi dans cette étoile de mer une image possible du sexe féminin muni de dents, essayant d'étayer leur argument en expliquant qu'il y a une véritable homophonie entre Astérie, hein, qui est le nom scientifique de l'étoile de mer, Astérie et Hystérie.
Ouais.
Bon, je laisse chacun voir dans cette étoile de mer ce qu'il a envie de voir. Mais en tout cas, voilà, cette étoile est présente, c'est pratiquement le personnage principal du film, et elle évoque cet amour perdu, cet amour impossible.
Donc il y a un homme qui arrive à ce moment-là, il va y en avoir un deuxième homme qui sera joué justement par Desnos, ça,
c'est extrêmement émouvant. En fait, à ma connaissance, c'est la seule image que nous ayons de Desnos vivant.
Ouais.
Bougeant, respirant. Alors certes, elle est très furtive, certes, elle est brouillée, mais Desnos est là et c'est lui qui a le beau rôle en quelque sorte, parce que c'est lui qui va venir à la fin et partir avec la femme. Et c'est une image qui a été tournée d'emblée, hein, parce que là aussi, le récit de Man Ray est un peu approximatif. Effectivement, il va tourner le film pendant que Desnos est à la Havane. Au congrès de la presse latine, mais en fait cette image avec Desnos, il la tourne d'emblée fin février, avant que Desnos ne parte pour la Havane.
Donc il y a quand même un petit peu une histoire malgré tout.
Oui, il y a une histoire. C'est une histoire d'amour que Desnos définit de la manière suivante, une histoire simple et terrible comme l'amour.
Ouais.
Donc il y a cette histoire d'amour et ce trio amoureux.
Une chose très curieuse à l'époque, n'est-ce pas, malgré cet effet comme film muet, j'ai envisagé un accompagnement musical pour ce film. J'ai insisté sur le son. Je n'étais pas ce qu'on appelle un puriste pour le cinéma. J'ai envisagé un son, j'ai trouvé ça indispensable. Alors j'ai choisi des disques, des tangos, des chansons populaires, ou même un morceau de musique moderne de Milo, Stravinsky.
Did you know that I'm all there?
ça c'est la voix de Man Ray qui dit qu'il a réfléchi à la bande-son qui était donc diffusée en parallèle de son film. Peut-être que vous auriez des précisions à apporter. Est-ce que c'est vraiment Man Ray qui s'est intéressé au son?
Là aussi c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'un retour aux sources réserve souvent bien des surprises, et en travaillant dans les archives, j'ai retrouvé notamment deux manuscrits de Robert Desnos. Mmh. Donc un premier manuscrit qui se trouve à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, sur lequel Desnos a pensé la musique et a pensé aux chansons qu'il souhaitait entendre en voyant le film. Et puis il y a un deuxième manuscrit qui est au MoMA, sur lequel là il y a une sorte de mini découpage technique, et à gauche figurent les principales séquences du film, et à droite positionnées les chansons que Desnos a envisagées. Alors ça va de la Carmagnole en passant par l'aria de Bach ou au Sole Mio, hein,
donc c'est tout plaisir
d'amour. Mmh. Donc c'est tout à fait ce que Desnos apprécie, une musique populaire. C'est aussi pour ça qu'il aime le cinéma, parce que c'est un art populaire. Et puis extrêmement, extrêmement varié. Hein. C'est des éléments qu'il développe dans ses textes sur le cinéma, ses textes critiques sur le cinéma. En l'occurrence, quand le film a été projeté pour la première fois, la première projection publique, hein, j'entends, en septembre 1928 au studio des Ursulines, ce n'est pas cette musique qui a accompagné cette première projection. Et en fait, c'est Ramona, qui avait fait les beaux soirs du Cabaret de Paris à ce moment-là, qui a été diffusée en même temps que la projection. Mais je suis quand même très, très heureuse aussi de pouvoir annoncer que le 22 février prochain, à la Cinémathèque française, dans le cadre d'un colloque sur les programmes de cinéma, on va projeter L'Étoile de mer, et on va le projeter avec l'accompagnement musical que vrai. Robert Desnos souhaitait.
Donc rendez-vous nombreux pour cette manifestation. Ce qu'on en retient quand même, c'est que c'est une véritable collaboration finalement. C'est un film de Man Ray et de Desnos, non?
Oui, tout à fait. Ben, la boucle est bouclée. On revient à ce qu'on disait initialement. Un poème de Robert Desnos tel que l'a vu Man Ray. Il y a une vraie collaboration. On n'en a pas parlé non plus, mais au-delà du poème, dans les archives, on s'aperçoit aussi qu'il y a des sortes de scénarios, ce que moi j'appelle des cinétextes de Robert Desnos. Il y en a notamment un à la Cinémathèque française qui est une page avec un découpage en 24 numéros, qui est de la main de Desnos. Et puis, il y a celui du MoMA également. Donc, Desnos ne s'est pas contenté, entre guillemets, d'écrire le poème et de le donner à Man Ray. Il y a aussi un travail qui va plus loin, de cinétexte, d'écriture cinématographique, et il y a véritablement un film qui n'est pas une illustration, une mise en image des vers du poème de Desnos, mais qui est autre chose. J'ai parlé d'OVNI artistique, je reviens, c'est autre chose d'assez indéfinissable.
C'est un OVNI artistique qui pourrait s'apparenter peut-être à du cinéma automatique, comme on disait, comme on parlait d'écriture automatique chez les surréalistes, qui n'étaient tout de même pas loin de Man Ray et Desnos.
Alors, peut-être dans l'impression et dans le rendu, mais pas dans la confection. Parce que, comme Alain Sayegh l'a dit aussi tout à l'heure, Man Ray, c'est un vrai travailleur, c'est un vrai technicien. Et ce qui peut donner peut-être une impression d'improvisation n'est absolument pas improvisé.
Dernière question, est-ce qu'il y a une haine du cinéma, comme il y a une haine de la photographie chez Man Ray, qui va faire qu'à un moment donné, pour lui, le cinéma s'est terminé?
Haine, je pense que le mot est trop fort. Non, il y a un intérêt, mais il y a une déception. Une déception de voir le cinéma virer dans une voie qui ne lui correspond pas et dans laquelle il ne pourra pas s'épanouir et faire ce qu'il a envie de créer. Et puis, il y a un paramètre financier, hein, dans le cinéma aussi, évident. Il faut trouver des communautaires, il faut trouver des mécènes. Et là, c'est extrêmement difficile. Mais haine, non, je ne pense pas.
C'est quelqu'un qui veut créer comme il l'entend.
Librement.
Librement. Merci beaucoup, Carole Horoué, d'être venue nous parler aujourd'hui du cinéma de Man Ray et en particulier de son film L'Étoile de mer, ce film auquel vous avez consacré un ouvrage paru aux éditions Grémez en 2018. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo, Hélène Rivière et Alexandre Dang. La semaine prochaine, tout autre chose, puisqu'il sera question de Racine dans La Compagnie des œuvres. Et dans un instant, c'est les sciences sur France Culture.